France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Caroline Eliachef.
Bonjour. Depuis le mois de janvier, vous avez pu entendre quatre psychanalystes vous parler chacun à leur façon de l'inconscient. Si vous avez bien écouté, nous avons aussi parlé de nous-mêmes et donc de nos inconscients, soit à travers notre pratique, soit par le choix des sujets traités. J'imagine que certains d'entre vous se demandent, mais au fond, qu'est-ce qu'un psychanalyste, bon de préférence ? Et peut-être aussi, par curiosité ou par intérêt personnel, vous demandez-vous comment on devient psychanalyste ? Eh bien, pour tenter de répondre à ces questions pour ce dernier épisode, je vais vous parler de la transmission de la psychanalyse, de son lien avec l'inconscient, et aussi de ce que la psychanalyse peut nous dire, sinon nous apprendre, de la transmission. À l'issue de cette réflexion, je répondrai aux questions des auditeurs qui ont déjà écouté le podcast, puis laissé leurs commentaires sur notre page L'Inconscient sur franceinter.fr ou sur le répondeur du 01 56 40 64 04.
L'Inconscient avec Caroline Eliachef sur France Inter.
Bien que partageant avec les animaux un héritage biologique, génétique et des possibilités de communication, la transmission des valeurs, des normes et des biens est le propre des humains. On ne peut se fonder en prenant appui sur soi-même, écrit avec justesse le psychanalyste et historien du droit Pierre Legendre qui vient de mourir, pointant par là que la transmission suppose au minimum une rencontre. Mais si ce terme est largement exploité dans le langage commun, il a une signification particulière pour la psychanalyse qui tient au paradoxe suivant. D'un côté, cette question a taraudé Freud, relayée par ses successeurs, qui ont tenté de l'institutionnaliser, puis renouvelée par Jacques Lacan, dont ce n'était pas le moindre de ses soucis. C'est la preuve que cette transmission est apparue indispensable à deux titres. Pour la reconnaissance de ce que Freud considérait comme une science nouvelle, et pas seulement une théorie, aussi révolutionnaire soit-elle, et pour la survie de la psychanalyse comme pratique. Par ailleurs, vous vous souvenez peut-être de cette boutade de Freud que je vous avais rapportée à propos des trois métiers impossibles, gouverner, éduquer et psychanalyser. Pourtant, ces métiers n'en continuent pas moins d'être exercés. Eh bien, figurez-vous que concernant la transmission de la psychanalyse, Freud comme Lacan ont conclu qu'elle était impossible. Et pourtant, elle se pratique, voire même elle s'accomplit. Ce paradoxe est moins surprenant qu'il n'y paraît, puisque c'est grâce à la psychanalyse qu'on peut comprendre que la transmission pose question, essentiellement quand elle rate. Mais ratage n'est pas forcément synonyme d'échec. Mais avant de conclure à l'impossibilité de sa transmission, ce n'est pas faute d'avoir cru que c'était possible et surtout d'avoir essayé. Freud, je vous l'ai dit, avait à cœur de faire reconnaître la psychanalyse comme une science et de la protéger des inventions théoriques de son entourage qui n'avaient rien à voir avec elle, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué d'arriver. Et puis, il s'agissait de former de nouveaux praticiens, mais comment ? Les premiers psychanalystes n'avaient comme guide que les articles sur la technique rédigés par Freud, ce que leur relation avec Freud leur enseignait, qu'ils soient ou non en analyse avec lui, et l'écoute de leurs patients. S'est imposée progressivement l'idée de créer, en 1910, une association internationale, l'IPA, International Psychoanalytical Association, présidée par Jung, successeur choisi par Freud car il avait pour principal avantage de ne pas être juif. Freud craignait non sans raison que la psychanalyse soit assimilée à une science juive. Jung a rapidement souhaité tirer son autorité de sa propre doctrine et a rompu avec Freud quelques années plus tard. C'est à cette époque, à l'initiative de Jung ou de Ferenczi, que l'obligation de faire une analyse qu'on appellera didactique, c'est-à-dire pratiquée chez un analyste lui-même qualifié, a été instaurée. Le problème étant de savoir qui peut se dire analyste qualifié. Jung, lui, a enseigné et formé des analystes à Zurich sans jamais avoir fait d'analyse. Et Freud, lui, s'est résolu à abandonner la désignation des analystes aux sociétés européennes et américaines, fondées par des fidèles peu ou mal analysés. Ce qui ne l'empêchait pas de participer aux réunions scientifiques du mercredi de la Société psychanalytique de Vienne, où il pouvait échanger avec sa garde rapprochée. Parallèlement, pour informer un public différent, il a donné des cours à l'université, publiés sous le titre « Les leçons d'introduction à la psychanalyse ». Enseigner la psychanalyse à l'université n'allait pas de soi. Bien que Freud ait lui-même commencé à le faire, d'infinies controverses ont éclaté par la suite. Est-ce une compromission ou est-ce que la psychanalyse y gagne en visibilité et en légitimité ? La grande peur étant que le savoir académique prenne la place du savoir inconscient et que l'université prétende former des praticiens. En France, la psychanalyse est enseignée à l'université depuis la fin de la guerre grâce à Daniel Lagache qui l'a introduite dans les études de psychologie. Les théories de Lacan ont commencé à être enseignées à l'université expérimentale de Vincennes, née après 1968, ce département étant rattaché à celui de la philosophie.
Pour nous, découvrir la psychanalyse à l'université, ça a été une vraie révolution. Il faut d'ailleurs voir qu'aujourd'hui, des dizaines d'années après le centre expérimental de Vincennes, il n'y a aucun autre département de psychanalyse en tant que tel en France.
Est-ce que vous avez assisté à cette fameuse conférence de Lacan à Vincennes ?
Je me souviens de cet amphi absolument bourré de monde, cette scène mémorable d'un type qui a voulu se déshabiller devant Lacan, et Lacan lui a dit « mais allez-y, continuez !» Enfin bon, ce qui l'a plutôt, pour le coup, déstabilisé lui, l'énergumène. Et c'est là que Lacan a en effet prononcé cette phrase absolument étonnante. « Je vais vous dire ce que vous voulez. » Il s'adressait quand même, si j'ose dire, à la crème de la contestation locale. Donc, effectivement, les oreilles se sont dressées et il nous a dit « ce que vous voulez, c'est un maître et vous l'aurez ».
L'université ne délivre pas de diplôme permettant d'exercer la psychanalyse, mais elle peut attester avoir délivré un enseignement théorique. En Italie, pour autant que je le sache, l'université a le monopole de la formation des psychothérapeutes et des psychanalystes, tandis qu'en Allemagne, elle est entièrement sous le contrôle de la médecine. C'est justement ce que la France a essayé d'éviter. Mais il y a une autre spécificité française. Devenir psychanalyste n'est pas réservé aux médecins. Les psychologues sont tout autant concernés s'ils font une analyse didactique et environ 20% des autres psychanalystes à une formation autre, philosophique, scientifique, voire religieuse. Elle les a parfois menés à exercer un métier parfois très éloigné de la psychanalyse dans une vie antérieure. À l'IPA est revenue la mission de former de nouveaux psychanalystes et de protéger la psychanalyse contre elle-même, ce que Freud lui-même a considéré comme un échec. Le psychanalyste Mustapha Safouan écrit que, je le cite, « Freud avait eu la surprise de constater que même quelqu'un ayant fait un certain chemin dans l'exploration de son inconscient risquait toujours de développer une résistance ultérieure à la psychanalyse et que certains, non seulement oubliaient tout ce qu'ils en avaient appris, mais devenaient ses pires ennemis. » Fin de citation. Quant à désigner qui était apte à exercer, l'historienne de la psychanalyse, Elisabeth Roudinesco, considère que l'IPA, en professionnalisant la psychanalyse, est devenue, je cite, « une machine à fabriquer des notables ». Elle parle du freudisme légitimiste de l'IPA, qu'on appelait à tort orthodoxe.
C'était tout à fait l'idée de Freud, qu'il n'y avait pas besoin d'une formation autre que la psychanalyse elle-même, pour devenir analyste, ce qui ne résout pas tous les problèmes de la formation analytique. Alors naturellement, ça peut déboucher sur quelque chose de tout à fait dangereux, c'est-à-dire, et c'est arrivé, que n'importe qui puisse se réclamer, puisse s'établir psychanalyste en s'autorisant à être analyste. Mais l'idée reste que, et devrait être maintenue, et doit être comprise comme ça, et elle était déjà chez Freud, que pour devenir analyste, au fond, c'est le travail analytique lui-même qui est important.
Le danger n'est pas venu des analystes à former, mais des mandarins qui les formaient. Échec ou pas, l'IPA existe toujours, mais n'a plus le monopole de la formation des psychanalystes. En effet, lorsqu'en 1963, l'IPA a exclu Lacan, et d'ailleurs aussi Françoise Dolto, en leur déniant leur qualité d'analyste didacticien, habilité à prendre en analyse ceux qui veulent devenir praticiens, Lacan a fondé sa propre école, l'École freudienne de Paris. Il s'est mis en quelque sorte au défi d'inventer un autre mode de formation des analystes, tout en ayant comme Freud le souci d'assurer la survie de son œuvre, ce qui n'était pas évident car il s'agissait d'un enseignement oral. Vous avez certainement entendu parler des séminaires qu'il a tenus de 1953 à 1979, d'abord à Sainte-Anne pour les psychiatres, puis à l'École normale et enfin à la Sorbonne. Les séminaires étaient ouverts à tous, sans inscription. Les dernières années, il fallait arriver en avance pour trouver une place assise, tant il y avait de monde. À ce jour, plus de 40 ans plus tard, l'édition de l'ensemble des séminaires confiée à son beau-fils Jacques-Alain Miller n'est pas terminée.
Bon, je recommence donc. Hein.
Mais il y a quand même de quoi faire.
Je recommence. Hein. Je recommence puisque j'avais cru pouvoir finir.
Hein. Si, nous sommes en principe. Disons pour la plupart des analystes, nous ne pouvons pas oublier que l'analyste est, si je puis dire, un interprétant.
Je vous ai dit que pour devenir psychanalyste, le minimum est d'avoir fait une analyse personnelle. Oui, mais pourquoi ? Être analyste implique d'entendre et de travailler avec les formations de l'inconscient que l'on perçoit dans le discours du patient. Encore faut-il avoir pu explorer son propre inconscient et les raisons de son désir d'être analyste. Pour pratiquer, la découverte freudienne doit d'abord s'éprouver sur le divan. Oui, mais comment en attester et auprès de qui ? Cette question a poussé Lacan à imaginer un dispositif, la passe, où un analysant, se trouvant en passe justement de devenir analyste, pouvait, s'il le souhaitait, parler de ce qui soutenait son désir d'exercer la psychanalyse en fonction de sa structure, de son vécu, de son parcours de vie. À qui ? À deux passeurs, eux-mêmes en analyse, désignés par leur psychanalyste. Et ces passeurs devaient ensuite témoigner de ce qu'ils avaient entendu devant un jury de didacticiens. Pour de multiples raisons, la passe, assimilée ou vécue par certains comme un examen de passage qualifiant et pour le public une forme de garantie, a échoué. Mais elle posait une bonne question. Pourquoi choisir ce métier impossible ? Ce à quoi il faut renoncer, écrit Mustapha Safouan, qui a lui-même fait partie du jury d'agrément, c'est au rêve d'une procédure institutionnelle destinée à recueillir les témoignages relatifs à ce sujet et à en intégrer la portée dans un corps de savoir. Fin de citation. Et de remarquer que pour finir, la psychanalyse est la seule profession qu'on exerce sans y être qualifié par une formation réglementée. Aux assises de l'école freudienne sur l'expérience de la passe en 1978 à Deauville, la psychanalyste Ginette Rimbaud a fait une intervention qui en a choqué plus d'un quand elle a déclaré « Si la passe a été mise au centre de l'école par Lacan, c'est bien pour manifester que l'érudition analytique ne suffit en rien à fabriquer un analyste. Ce qu'il y faut. Possibilité d'ouverture sur le texte inconscient, le sien et celui de ses analysants, suppose un travail sur soi dont il nous semble que sans une certaine grâce au départ, il restera toujours impossible à rendre fructueux. Nous ne disons pas qu'on devient analyste par la grâce de Dieu, mais que sans elle, on ne le devient certainement pas. À rien d'autre que le « beaucoup d'appelés, peu d'élus » ne nous a paru mieux s'appliquer.
Pour être analyste, qu'est-ce qu'il importe d'être ou d'acquérir ? Une formation, un désir, est-ce qu'il y a des conditions nécessaires ?
Conditions nécessaires, c'est une analyse personnelle. C'est-à-dire un certain maniement, une certaine ouverture à l'inconscient. Hein ? Vous savez que Lacan avait créé dans son école une sorte de procédure, la passe, pour essayer de comprendre comment un analysant peut désirer devenir analyste.
Est-ce qu'on peut parler pour vous de bons analystes et de mauvais analystes ?
Non, on est analyste ou on ne l'est pas.
Tout le monde savait ce que Ginette Rimbaud a osé dire. Il y a des personnes plus douées que d'autres. Pourtant, son intervention a été brocardée par les ignorants qui n'ont pas compris que son renvoi à la grâce de Dieu devait être pris comme une boutade. Auprès de ces lacaniens censés avoir assisté au séminaire, elle faisait référence à la grâce telle que Lacan en avait parlé en 1969 en disant « Qui ne voit que la grâce a le plus étroit rapport avec ce que moi je désigne comme le désir de l'autre ?» Lacan a sincèrement cru qu'il y avait une transmission possible de la psychanalyse dont il serait possible de rendre compte dans un corpus de savoir avant de se rendre à l'évidence que la psychanalyse n'est pas transmissible par ce dispositif. Mais n'a-t-il pas ouvert une porte de sortie en disant « C'est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, puisqu'il faut bien qu'il y soit forcé, de réinventer la psychanalyse ». Ceux qui ont expérimenté la passe ont transmis quelque chose à Lacan. Preuve que la transmission ne se fait pas uniquement dans le sens vertical, du haut vers le bas, et ceci est particulièrement vrai pour les psychanalystes. Lacan pointe également qu'il n'y aurait de transmission que si elle était créative et non répétitive. Enfin, et ceci est peut-être le plus important, puisqu'il faut réinventer la psychanalyse, chaque aspirant psychanalyste est responsable de sa formation et de ce qu'il en fera. C'est comme ça que j'ai compris une autre phrase de Lacan qui a fait couler tant d'encre. L'analyste, s'il est analyste, ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres. Ce n'est pas une autorisation donnée à n'importe qui de se dire psychanalyste. Au contraire, ça renvoie chacun à la responsabilité d'assumer sa formation, notamment en choisissant à bon escient les quelques autres.
L'inconscient avec Caroline Eliechef sur France Inter.
Qu'en est-il aujourd'hui ? Force est de constater que l'existence de la psychanalyse à l'université est en régression, aussi bien en psychologie qu'en psychiatrie et en philosophie. Alors que sa légitimité n'est plus contestée, sa survie est menacée. Aujourd'hui, comme le constate Mustapha Safwan, nombreux sont ceux qui veulent se libérer de l'analyse et non par l'analyse. En parallèle, tous les instituts de psychanalyse, et ils sont nombreux, affiliés ou non à l'IPA, continue de cumuler plusieurs fonctions. L'enseignement théorique sous forme de séminaires et d'études de textes, l'enseignement pratique aboutissant à la reconnaissance du praticien comme psychanalyste en suivant des cursus de contrôle variables selon les écoles. Et si échec il y a, c'est que personne ne peut certifier qu'un postulant ayant suivi tout le parcours de formation est bien apte à exercer, ni même qu'il a assumé la responsabilité de se former. La question posée par Freud, puis par Lacan, du désir de l'analyste a bien été transmise, mais elle est restée sans réponse. Peut-être d'ailleurs n'y a-t-il pas de réponse. Est-ce pour autant un échec ? En publiant leurs travaux et en partageant leurs expériences, les psychanalystes ont fait avancer la théorie et ont gardé la psychanalyse vivante, même lorsqu'elle est fortement contestée, parfois avec justesse. Ils transmettent, même s'ils ne savent pas ce qu'ils transmettent, à ceux qui viennent les solliciter, que ce soit pour une psychanalyse, pour un contrôle, pour un enseignement théorique, voire en s'exprimant dans les médias comme nous le faisons, donnant parfois envie aux plus jeunes de prendre la relève. Si vous entendez parler pour la première fois des affres de la formation des psychanalystes, sachez quand même que si les diplômes universitaires, la notoriété, les écrits, l'inscription dans telle ou telle société ne sont pas des assurances tout risque, de bons psychanalystes, il y en a. Il est toujours possible d'en trouver un avec qui entreprendre une analyse personnelle si la rencontre vous paraît concluante. Pour en revenir à la transmission de la psychanalyse, les psychanalystes n'en ont pas le monopole. Pensez à ceux qui ont fait une analyse personnelle sans devenir psychanalyste, qui en parlent ou en font des livres, et franchement je les admire. Pourquoi ? Parce que dans la majorité des cas, l'oubli fait son œuvre. On le sait pour les enfants, mais on le dit moins pour les adultes. Bien qu'ayant passé plusieurs années, plusieurs fois par semaine sur le divan, on se souvient finalement de peu de choses. Ne restent souvent que des traces et des conséquences du langage sur le corps. Car c'est un fait qui reste mystérieux. Comment se fait-il que par la grâce de la cure par la parole, certains guérissent plus ou moins de leur névrose ? Le 15 avril dernier, dans l'émission de Léa Salamé « Quelle époque ?», Danny Boone, Isabelle Carré et Frédéric Becbédé en ont fait la démonstration. Danny Boone a fait une analyse pendant 7 ans, 5 fois par semaine au début, a-t-il précisé, après avoir lu Une saison chez Lacan de Pierre Rey, saison qui, elle, a duré 10 ans. Non seulement, relate Danny Boone, ça m'a apporté le fait d'être heureux et pas que sur scène, mais il a également été aux sources de son désir d'amuser. Né d'un père kabyle qui n'a pas assuré et d'une mère bannie de sa famille qu'il voyait souffrir, il raconte « Je la faisais rire, j'avais une mission et encore aujourd'hui c'est ma motivation, c'est une sorte de réparation ». Et il ajoute cette phrase merveilleuse qui parlera à tous les jeunes qui se trouvent comme lui en position de soigner leurs parents « J'attendais d'être grand pour être insouciant ». Isabelle Carré, elle, dit que la psychanalyse lui a sauvé la vie. Et c'est une phrase qu'on entend assez souvent quand ça a marché. Elle avait aussi le théâtre, mais dit-elle, le théâtre ne suffit pas. Quant à Frédéric Becbédé, plus modeste après 8 ans d'analyse...
Ça aide, enfin, je veux dire, on reste quand même complètement taré, mais on sait pourquoi.
Il faut dire enfin que les cures qui ont échoué, au dire de ceux qui s'y sont prêtés, ont appris davantage aux psychanalystes que toutes les théories. Les multiples disciplines qui s'interrogent sur ce qui se transmet et de quelle façon n'ont pas attendu la psychanalyse pour y apporter les réponses les plus diverses, des philosophes aux généticiens, en passant par les pédagogues, les religieux et dans le domaine des biens, les notaires et les généalogistes. La psychanalyse, et plus précisément la découverte de l'inconscient, a-t-elle apporté quelque chose dont Platon, Nietzsche, Saint Thomas ou les talmudistes ne se seraient pas déjà avisés, pour ne citer qu'eux ? C'est la question que s'est posée en toute modestie mon collègue et ami Jean-Pierre Winter. Nous nous en sommes souvent entretenus et je vous recommande la lecture de son livre « Transmettre ou pas » paru en 2012 chez Albin Michel. En s'intéressant aux failles, aux impasses, aux blessures de la transmission, Freud a formalisé des intuitions qui étaient restées plus ou moins lettres mortes pour en faire une théorie cohérente. Chacun sait que la transmission existe sur le plan conscient, mais elle existe surtout sur le plan inconscient, ce qui veut dire qu'une grande partie de la transmission nous échappe. Nous pouvons transmettre sans savoir que nous transmettons. Par exemple, quand le comportement est en contradiction avec les valeurs ou les principes déclarés. Et nous ne savons pas quand nous sommes récepteurs d'une transmission d'un passé récent ou beaucoup plus ancien. Alors que la transmission passe essentiellement par le langage, ce sont aussi les silences, les non-dits, les secrets de famille qui se transmettent sous forme de symptômes, d'angoisses, de fantasmes. Les traumatismes des générations précédentes, individuels ou collectifs, ont des effets sur les générations suivantes. Mais ce n'est pas toujours dans ce qu'on appelle le transgénérationnel, qui explore les traumatismes du passé, qu'on trouve l'explication d'un symptôme, car il n'y a pas de prédestination, la réaction à un traumatisme étant éminemment variable d'une personne à l'autre. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire de transmission puisée dans la littérature. Il s'agit du livre de l'écrivain américain et rabbin Chaim Potok, « Je m'appelle Asher Lev », paru en 1973. À travers un cas très particulier, il aborde avec talent un ensemble de questions qui nous concernent tous. Asher Lev est un fils unique, vivant dans la communauté hassidique ultra-orthodoxe de Brooklyn. Il a un don précoce, plutôt inattendu dans ce milieu. Il sait dessiner et peindre avec talent. Tant qu'il est petit, ses parents pensent que ce n'est qu'un jeu d'enfant qu'il abandonnera de lui-même. Comme il ne renonce pas à cette activité envahissante, ça deviendra un problème lorsqu'à 13 ans, il sera responsable de ses actes devant sa communauté. En dessinant tout ce qu'il observe, il transgresse le commandement interdisant de représenter ce qui est vivant sur terre et dans le ciel. Cette transgression est de taille, mais ce sera la seule. Hormis pour son art, Asher Lev ne cherche pas à s'extraire de son milieu traditionnel, de son éducation religieuse, de ses rites. Si vous avez vu la série Un orthodoxe, où une jeune fille refuse totalement ce que son milieu ultra-religieux veut lui transmettre, eh bien c'est pas du tout la même histoire. Le père d'Asher Lev est le bras droit du chef de la communauté. À ce titre, il voyage aux USA et dans toute l'Europe pour y créer ou recréer des écoles juives. Sa femme l'attend et souffre de cette attente. Quand le père est présent, il veut contraindre son fils à renoncer au dessin en lui manifestant son incompréhension, sa déception et sa souffrance. Mais même rejeté, Asher Lev continuera d'honorer ses parents, témoignant que le judaïsme pratiquant lui a bien été transmis.
Je sais quel est mon chemin, papa. C'est de peindre.
Ce chemin n'est pas le bon, tu dois y résister.
Mais je peux pas.
Tu le dois.
De façon surprenante, le chef de la communauté, gardien de la loi, va aller à l'encontre du père en encourageant le jeune garçon à cultiver son don. Comment ? En le confiant à un peintre de renommée internationale, un ancien membre de la même communauté dont il s'est éloigné.
Asher, si je te prends sous mon aile, c'est parce que je prendrai autant de plaisir à modeler ta grandeur qu'à modeler de l'argile.
D'un côté, on peut dire que c'est un échec de la transmission paternelle à faire respecter le commandement majeur de l'interdit de la représentation. De l'autre, c'est une réussite. Dans ce milieu extrêmement rigide, une place est laissée à l'initiative par le tzaddik, le sage. Elle permettra l'éclosion d'un génie artistique qui est allé puiser ailleurs que là où les choses lui ont été volontairement transmises. Dans ce contexte, la prééminence du maître sur le père n'est pas discutable. Mais n'est-ce pas une question qui se pose pour nous quant aux responsabilités respectives de l'école et de la famille dans l'éducation et la transmission des valeurs, surtout quand elles sont contradictoires? Chaim Potok pose aussi la question de savoir d'où vient le don, que Ginette Rimbaud, souvenez-vous, avait appelé la grâce. Dans le roman, pour les religieux, il viendrait de l'autre monde, le monde diabolique. Est-ce à dire que le mal se transmettrait en toute inconscience plus facilement que le bien, ou que le don ne se transmet pas? Lors de sa première grande exposition à New York, le tableau qui rendra Asher Lev célèbre représente sa mère crucifiée entre son père et lui-même enfant. La croix, ce sont les barreaux perpendiculaires de la fenêtre derrière laquelle elle attendait son mari quand Asher était enfant. Pendant qu'il peignait ce tableau, Chaim Potok fait dire à Asher Lev « Pour tout ce que tu as souffert, maman, pour toutes tes souffrances passées et futures, maman, pour toute l'angoisse que ce tableau va te causer, maman, pour ce mystère indicible qui jette père et fils l'un contre l'autre sous les yeux en pleurs d'une mère, pour tout cela j'ai fait ce tableau. Moi, juif observant, j'ai peint une crucifixion, parce que je ne trouvais pas dans ma propre tradition religieuse de modèle capable d'exprimer une telle angoisse, une telle souffrance. » Asher Lev est aussi actif dans ce qu'il reçoit que dans ce qu'il refuse de ce qu'on lui transmet, consciemment ou non, et entre autres l'angoisse. Mais ce qu'il aura refusé, pour être en accord avec son désir ou son don, a des conséquences pour lui et son entourage, pour le meilleur et pour le pire. En toute conscience et inconscience. Dans son journal de jeunesse, le jeune Otto Rank, avant de devenir psychanalyste, a noté l'impression judicieuse que lui a laissée Freud après avoir lu l'interprétation des rêves. Un artiste médicalement certifié. Mais au fait, est-ce que nous n'aurions pas tous une fibre artistique? Ce sera ma conclusion de tous ces épisodes que j'ai eu le plus grand plaisir à partager avec vous.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Caroline Eliachef.
Restez à l'écoute, dans un instant je répondrai à vos questions après avoir écouté Arthur H. La route.
Tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Même tout de suite, dans l'instant, tu vis. Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sur la main, tu le prends. Ce que tu dois vivre, vis-le. Qui te porte, laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux vivre, tu le vis.
Posez vos questions. Je vous écoute.
Bonjour, je m'appelle Gaëlle. Voici ma question. On ne naît pas psychanalyste, ça me paraît évident. On ne le devient pas toujours, même après une analyse. Mais quand on le devient, il peut arriver aussi après plusieurs années de pratique qu'on se demande si on va le rester. Ce métier étant dit impossible, je pense que c'est une question légitime. Voilà, j'avais envie de vous la soumettre. Merci.
Bonjour Gaëlle. Effectivement, votre question est tout à fait légitime. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est que j'ai traité de la transmission de la psychanalyse et que des personnes qui quittent la psychanalyse ne me paraissent pas être ceux qui la transmettent le plus. Je connais beaucoup plus de personnes qui, ayant eu un métier assez éloigné de la psychanalyse, deviennent psychanalystes. Par exemple, professeurs, psychologues scolaires, chefs d'entreprise, écrivains, assistantes sociales, voilà toutes sortes de gens qui, à un moment de leur parcours, ont d'une part fait une analyse personnelle et des études et sont devenus psychanalystes. Mais le sujet que vous évoquez, à savoir les gens qui ont quitté ce métier après l'avoir exercé, existe tout à fait. Je pense qu'ils sont beaucoup moins nombreux que ceux que j'ai cités précédemment, mais ils existent. Peut-être que vous avez entendu parler, par exemple, de l'écrivain Marie Darrieussecq, qui, pendant quelques années, a pratiqué la psychanalyse, puis a cessé de pratiquer la psychanalyse. Elle n'est pas la seule. Alors, les raisons sont à chaque fois assez personnelles. Je ne pense pas que ça soit parce que ce métier aurait été jugé impossible. Je pense qu'il y a des circonstances dans la vie qui font que les personnes changent de métier. Et ça ne doit pas être si différent pour des gens qui arrêtent de pratiquer la psychanalyse. Mais oui, ces personnes existent. Encore une fois, elles sont moins fréquentes que celles qui changent de métier pour devenir psychanalyste.
Bonjour, tout d'abord, merci pour cette série sur l'inconscient qui est vraiment très intéressante. Et je voulais poser une question. Moi-même, j'ai été analysée pendant plusieurs années. Et si bien j'ai grandi dans mon analyse, j'ai obtenu une certaine maturité. J'ai aussi beaucoup souffert. Et je voulais vous demander, et parce que je crois que bon, ça n'a pas été abordé dans l'émission, c'est comment vous, psychanalyste, pouvez supporter et comment gérez-vous la souffrance de l'analysant? Moi, je sentais que ma psychanalyste était très froide, mais j'ai toujours pensé que bon, ça avait une raison, sans doute. Voilà ma question. Merci.
Alors, vous abordez effectivement un sujet dont on parle assez souvent entre nous. Hein. Comment on fait pour supporter une journée avec des patients? Alors, c'est souvent une question qu'on nous pose de l'extérieur, d'ailleurs. Entre nous, on supporte ça assez bien. Alors, pour quelles raisons? Bon, d'abord parce que c'est un métier. De telle heure à telle heure, nous exerçons notre métier et il convient, pour notre bonne santé psychique et celle de nos patients, que une fois que nous avons arrêté de travailler, nous fassions autre chose. C'est-à-dire, nous ne soyons pas envahis par ce que vous appelez la souffrance de nos patients. Alors, effectivement, l'analyse de chaque personne n'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça n'est pas l'analyse qui les fait souffrir. C'est parce qu'ils ont souffert qu'ils viennent en analyse, ce qui quand même change tout. Nous n'assistons pas à des personnes à qui nous appliquerions des tortures. C'est pas du tout ça la situation. Et ce qui nous soutient également, c'est quand même l'idée que après ils vont en principe, ils viennent pour aller mieux. Ils viennent pas pour jouir de souffrir, en tout cas nous l'espérons, et donc tout ça nous soutient. Je pense que toutes les personnes qui exercent des métiers qui consistent à s'occuper des autres personnes doivent avoir en elles-mêmes des ressources, effectivement, non seulement pour le supporter, mais aussi, je crois, et ça me paraît assez important, pour elles-mêmes ne pas en jouir, pour ne pas que ce soit ça qui soit leur moteur dans la vie. Voilà, donc je crois aussi qu'il faut que le psychanalyste n'aille pas trop mal, qui n'est pas toujours le cas, mais voilà, il vaut mieux aller bien pour s'occuper des autres.
Bonjour, je m'appelle Thomas et j'aurais voulu savoir si, au-delà du parcours de l'analysant et des procédures de transmission et de validation pour devenir psychanalyste, il n'y aurait pas aussi des qualités ou des compétences nécessaires ou indispensables à faire d'un individu un bon psychanalyste. Je pensais par exemple à la capacité empathique que moi je définis comme la capacité à percevoir ce que ressent l'autre sans s'en sentir submergé, que je distingue du terme empathie qui aujourd'hui est tombé dans le langage courant et est bien plus proche de la sympathie ou de la compassion. Voilà, je vous remercie, au revoir.
Bonjour Thomas. Oui, pour être psychanalyste, il faut beaucoup de qualités, parfois quelques défauts. Des qualités indispensables, je ne saurais pas en faire la liste. En revanche, ce que vous dites, à savoir, il faudrait avoir une possibilité de comprendre ce qui se passe chez l'autre, etc. Je suis pas sûre du tout. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que quand on croit comprendre ce que l'autre pense, en fait, on projette sur lui ce qu'on pense. On ne sait absolument pas ce que l'autre pense. Et je crois au contraire que pour écouter quelqu'un, la position que nous devons avoir est précisément de ne rien comprendre. De ne rien comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait le sentiment, même s'il n'est pas exprimé ou dit comme tel, que vraiment, pour qu'on comprenne quelque chose, il va falloir qu'il bosse, quoi. Parce que, a priori, on comprend rien. Il faut vous dire tout à fait honnêtement que souvent, on comprend rien. Et que si on a cette volonté de comprendre, et encore plus celle d'expliquer à l'analysant ce qui se passe, on n'est pas du tout dans la psychanalyse, on est dans autre chose. Et donc, on se sert plutôt de notre incapacité réelle, Mais même si vous avez beaucoup d'empathie pour les gens, en fait, vous savez jamais ce qu'ils pensent. Et donc, un psychanalyste ne doit pas prétendre savoir, à la limite, mieux que son patient ce qu'il pourrait penser. Le patient, l'analysant, doit avoir à cœur de vraiment bosser pour déboucher les oreilles du psychanalyste.
L'inconscient avec Caroline Eliachef sur France Inter.
Nous poursuivons avec vos questions.
Bonjour Caroline Eliachef. Je m'appelle Martin Boisseau et je vous écoute depuis le Québec. Votre série d'émissions a beaucoup d'intérêt. J'y trouve matière à réflexion. Alors, je vous remercie d'abord donc d'effectuer ce travail. Les prémices de ma question sont les suivantes. Je suis artiste et professeur en arts visuels. Je suis peintre et j'enseigne principalement la peinture, mais aussi les théories concernant les processus de création. Au moment où j'ai fait mon analyse avec une psychanalyste lacanienne, j'avais déjà commencé à enseigner depuis quelques années. Un des effets collatéraux de cette analyse fut que mon enseignement en a été chamboulé, modifié, bonifié surtout. L'enseignement est resté un métier impossible, mais est devenu supportable. C'est-à-dire que j'ai pu commencer à supporter l'insatisfaction d'avoir des conclusions satisfaisantes. Paradoxalement, je reste persuadé, et c'est peut-être une prétention, que cette capacité à supporter cette insatisfaction fait de moi un meilleur prof. Ma question, qui est plutôt un souhait en fait, est la suivante. J'aimerais vous entendre sur les trois métiers impossibles et plus précisément sur comment l'analyse rend parfois ces métiers possibles, du moins praticables, peut-être même depuis la prise en acte de cet impossible. Alors, je vous souhaite un bel été.
Merci beaucoup, Martin Boisseau, pour cette riche question. Alors, quand vous parlez de votre analyse et de ce qu'elle vous a apporté, c'est évidemment très intéressant parce que elle vous a, dites-vous, amené à supporter quelque chose que vous ne supportiez pas. Mais ce qui est d'ailleurs assez intriguant, je dois dire. Vous dites, j'ai commencé à supporter l'insatisfaction d'avoir des conclusions satisfaisantes. C'est intriguant et c'est intéressant. Je suppose que d'autres professeurs ont d'autres interrogations. Et évidemment, tous ne font pas de psychanalyse. Alors, quand on parle des métiers impossibles, j'en ai parlé dans une émission précédente, en fait c'est une boutade, que Freud a rapportée sans en donner l'origine. Alors, comme toute boutade, c'est très sérieux, mais c'est quand même une boutade. Vous avez l'air de suggérer que pour supporter d'exercer ces trois métiers impossibles, il faudrait faire une analyse. Peut-être, mais la plupart des gouvernants, des professeurs, évidemment je mets les psychanalystes à part, n'ont pas fait d'analyse et trouvent des satisfactions, avouables ou pas d'ailleurs, à exercer ces métiers. Et puis il y a des gens aussi qui aiment ces métiers pour des choses annexes, pour le pouvoir que ça apporte, pour quand on parle de gouverner, il s'agit pas seulement de vouloir changer le monde, il s'agit d'en avoir des effets secondaires. Quand il s'agit d'enseigner, c'est très souvent un métier de vocation. Quant à la psychanalyse, on vous met pas le couteau sous la gorge pour devenir psychanalyste. Donc voilà, j'aime beaucoup cette boutade et j'aime aussi l'idée que, bien sûr, ces métiers sont impossibles, mais pourtant, ils ont été exercés, ils le sont toujours et je pense qu'ils le seront toujours.
Bonjour, merci pour toutes vos émissions. Comment faire confiance à un analyste? Voilà donc ma question. Au cours de ma vie, j'ai rencontré une psychothérapeute, puis plus tard un psychiatre lors du décès de ma mère. Ensuite, un autre psychiatre lors du décès de mon père. Ce dernier a pris sa retraite et m'a proposé une psychiatre TCC. On a arrêté au bout de 4 séances, me sentant comme le chien de Pavlov. J'ai ensuite trouvé un psychiatre. J'ai toujours souhaité que la personne ait un diplôme reconnu. Ce dernier est aussi analyste. Ces personnes très différentes, trouvées la plupart dans les pages jaunes, m'ont aidé, mais pas forcément toutes de la même façon. Et deux d'entre elles m'ont fait beaucoup de mal. Alors ma question est celle-ci, comment faire confiance à un analyste? Merci pour la réponse. Au revoir.
Alors merci pour cette question. La plupart des gens qui viennent consulter un psychanalyste ont des problèmes avec faire confiance. Très souvent, il leur est arrivé un événement ou une certaine façon d'être éduqué ou toute autre chose qui leur a fait perdre confiance dans les adultes. Là, je parle des enfants et souvent, ils viennent seulement à l'âge adulte. Et donc, vous posez une question qui est compliquée, c'est-à-dire, ils viennent parce qu'ils ont perdu confiance, entre autres, et vous me posez la question, comment faire confiance? C'est presque à la fin de leur analyse qu'ils sauront comment on peut faire confiance. Alors, il y a aussi des personnes qui viennent consulter parce que ils se rendent compte qu'ils ne font confiance qu'à des gens à qui ils ne devraient pas faire confiance. C'est-à-dire à des gens qui vont être, on va dire, toxiques pour eux ou qui vont les mettre dans des situations impossibles. Ça aussi, ça peut être un motif de consultation. Donc, le sujet, c'est pas seulement comment faire confiance à un analyste, mais comment bien choisir la personne à qui on va faire confiance. Est-ce que soi-même, on n'est pas responsable de la confiance que l'on aurait accordée et on n'aurait pas dû l'accorder. Vous racontez également comment vous avez pris rendez-vous. Alors, ça m'a intéressée parce que la première émission que j'ai faite était sur la prise de rendez-vous. Et vous confirmez, c'est pas une intuition, c'est quelque chose que je sais, c'est-à-dire que vous regardez les pages jaunes et finalement, vous choisissez la personne, je suppose, proche de chez vous. Vous avez quand même des critères. Vous dites il faut que ça soit un psychiatre et il faut que ça soit un analyste. Donc, vous avez une idée préconçue, pas forcément fausse. Elle est préconçue, mais elle n'est pas forcément fausse. À savoir que, voilà, il aurait fallu faire médecine et faire psychiatrie et être psychanalyste pour pouvoir, à vos yeux, être compétent. Manifestement, vous vous êtes rendu compte à l'usage que ça ne suffisait pas. Donc, pour faire confiance à quelqu'un que vous allez rencontrer et que vous allez mettre en position d'être analyste, j'ai un seul conseil à vous donner. Faites confiance à vous-même et à ce que vous ressentez. Si vous avez un doute, si même vous vous posez la question « Est-ce que je peux lui faire confiance ?», c'est donc qu'il y a un doute et il faut que vous teniez compte de ce doute. Voilà aussi ce que je souhaitais faire passer.
France Inter. L'inconscient. Cette semaine avec Caroline Eliachef.
Bonjour Madame Eliachef. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette série de podcasts très intéressants. Je voulais vous poser une question par rapport à la PASS. C'est la première fois que j'entends parler de ce dispositif comme n'ayant pas marché. Je connais des associations qui proposent encore aujourd'hui la PASS comme outil de transmission de l'analyse et comme justement autorisation de soi-même et de quelques-uns. Donc voilà, je voulais en savoir un petit peu plus sur pourquoi ça n'aurait pas marché et si vous pouviez aussi peut-être me donner quelques auteurs à lire pour étayer ce point de vue-là, je serais très intéressée. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.
Merci pour cette question. Chaque institut de psychanalyse a un protocole pour transmettre la psychanalyse à ceux qui souhaitent devenir psychanalystes, bien sûr au-delà de leur analyse personnelle. Alors effectivement, vous dites la PASS existe. Effectivement, certaines associations ont un dispositif qui s'apparente à la PASS d'une manière ou d'une autre, qui l'ont adapté. Et Lacan lui-même a inventé la PASS, mais il y avait auparavant d'autres moyens de former les psychanalystes. Plusieurs personnes ont bénéficié, on peut dire, de ce dispositif, mais ce qui a échoué, ça n'est pas le processus même, c'était l'idée que ça pourrait s'intégrer dans un corpus de savoir. Ça n'est pas arrivé. Au plan individuel, il est arrivé que ça soit extrêmement mal vécu. Ce qui était difficile aussi, c'est que ça a été considéré comme un examen de passage, alors que c'était pas du tout ça. Donc ça, c'était un échec de considérer qu'il y avait une promotion, qu'on passait un examen et qu'il fallait le réussir. Ce qui était également un échec, c'était de considérer que ça donnait un label, un tampon. Hein, vous avez passé la passe, vous êtes passé, vous êtes bon. C'était pas ça non plus. Du côté des passeurs, ceux qui écoutaient la personne qui se soumettait à la passe, c'était pas évident non plus. C'était des gens donc de la même génération, au même moment de leur parcours, qui se trouvaient dans une position un petit peu délicate. Et cerise sur le gâteau, ce qui était le plus difficile, c'était les analystes confirmés qui étaient censés écouter tout ça. Pourquoi est-ce que eux, je veux dire, quelle était leur légitimité et quelle était leur légitimité? Alors, il y a autre chose que je voudrais vous dire concernant tout dispositif. Il s'agit donc de montrer que grâce à son analyse, on a petit accès à son propre inconscient et que on est censé savoir pourquoi on veut exercer ce métier. Alors, la question est peut-être bien posée, mais la réponse est extrêmement délicate. Je ne suis pas sûre que, si on avait posé la question à Lacan, il aurait été capable d'y répondre. Bon, d'abord, c'est une question évidemment assez intime, mais même si on avait envie de l'exprimer, ça n'est pas toujours possible et ça n'est pas toujours non plus souhaitable. Et je crois que toutes les raisons qu'on pourrait apporter sont en quelque sorte des constructions. C'est-à-dire, on peut toujours dire, voilà, pour telle ou telle raison, j'ai pensé que l'analyse m'apporterait ceci, cela, etc. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'exercer, enfin, je vous dis là un petit peu n'importe quoi. On peut toujours alléguer des raisons que, soi-disant, on aurait découvert dans son inconscient. En fait, c'est toujours autre chose. Et donc, quelqu'un qui, dans le processus de la passe, viendrait raconter à ses passeurs, qui ensuite le raconteraient aux analystes expérimentés, voilà, moi je sais pourquoi je deviens analyste, je ne suis pas sûre que ça serait le meilleur des analystes. Donc vous voyez comme ces questions sont complexes. Alors maintenant, si vous voulez vous renseigner, moi j'ai évidemment relu pour faire cette émission un certain nombre de choses. Alors, il y a eu les assises de l'école freudienne sur la passe qui ont eu lieu en 1978, et ça doit se trouver dans les bibliothèques, mais de façon plus légère, j'ai envie de dire, il y a le livre de Mustapha Safwan qui s'appelle « La psychanalyse, science, thérapie et cause » chez Folio. Mustapha Safwan est un des premiers analysés de Lacan, c'est quelqu'un de tout à fait remarquable, et lui a écouté les passeurs, et il en parle dans ce livre de façon de façon très intéressante, à la fois très admiratif de Lacan, et en même temps ayant pris lui-même un peu de distance par rapport à tout ça. C'est la meilleure attitude à avoir. Merci pour vos questions et merci à Nicolas Depagraf à la technique, Valentine Chedebois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions et Josépha Lebrun à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Laurie Loffer. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser vos messages par note vocale ou sur le répondeur du 01 56 40 64 04. C'était mon dernier épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté toute cette saison et vous souhaite un très bon été.